Ce soir, enquête sur la fabrication du monstre Daesh. Quelle a été l'implication de pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar? Nous allons voir dans une enquête signée Jacques Monin et Benoît Colombat que l'enjeu pétrolier a pu jouer un rôle considérable.
Tout le monde a joué avec Daesh. Tout le monde, il voulait jouer à travers Daesh pour s'imposer. En fait, on a créé Frankenstein. Aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver si est-ce qu'il y a un moyen pour l'arrêter. Oui, il y a des moyens, s'il y a une volonté politique.
Puis, dans Secret d'Info, nous allons revenir sur la première expérience conduite en France de déradicalisation. Cela se passe dans deux prisons de la banlieue parisienne. Laetitia Saavedra va nous raconter comment 60 détenus sont actuellement suivis. Voilà, c'est parti pour 40 minutes d'investigation et de décryptage de l'actualité.
France Inter, Secret d'Info, Mathieu Aron.
Mais pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter cet extrait d'interview.
Si l'émir d'une katiba en Syrie, de l'État islamique, demande à main levée à ses recrues qui veulent aller faire l'attentat en France, vous allez avoir 200 bras qui vont se lever en une demi-seconde.
200 candidats aux martyrs, c'est le chiffre effrayant donné par le juge Marc Trévidic. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Vous suivez l'enquête sur les attentats. Et ce qui nous a tous frappés, c'est ces opérations kamikazes qui se sont déroulées pour la première fois en France.
Oui, encore qu'il soit plus juste de parler d'attentats suicides. Pour être très précis, le terme kamikaze désignait ces pilotes japonais qui s'écrasaient volontairement sur des cibles militaires. Là, il s'agit d'autre chose. D'ailleurs, Daesh a conceptualisé ce type d'attaque dès le début de la guerre en Syrie. Daesh a même créé un terme spécifique, inrimasi. Il désigne des combattants qui, les armes à la main, se rapprochent de la foule ou de leur cible et qui déclenchent leur ceinture d'explosifs, soit lorsqu'ils sont encerclés, soit lorsqu'ils n'ont plus de munitions. C'est donc précisément, Mathieu, le scénario de vendredi dernier.
Et le juge, Marc Trévidic, qui dans son cabinet d'instruction a entendu des dizaines de terroristes, nous dit il y a pléthore de candidats. Et il n'est pas le seul à le dire, Élodie.
Non, il s'agit malheureusement d'une réalité. Cela semble presque inconcevable, mais selon les experts, les candidats aux martyrs seraient même trop nombreux. C'est ce qu'a observé le chercheur Romain Caillet, l'un des meilleurs spécialistes des milieux djihadistes.
C'est pas seulement de la propagande, c'est une réalité. Il y a même des listes d'attente. En tout cas, en Syrie, en Irak, il y a des listes d'attente de gens qui sont prêts à faire des opérations martyrs, des attentats suicides. Aussi bien des jeunes qui viennent de quartiers sensibles en France ou des gens de bonne famille, des ressortissants du Golfe qui sont fortunés ou des Tunisiens issus de régions déshéritées du sud de la Tunisie.
Les origines et les profils sont variés, vous l'avez entendu, mais ces kamikazes de l'État islamique ont un point commun, ils sont volontaires. Ce choix, ils le manifestent d'ailleurs dès leur arrivée dans les camps d'entraînement. Deux filières existent et Daesh demande aux combattants de choisir leur filière, explique le journaliste David Thompson, auteur du livre « Les Français djihadistes ».
Dès qu'on arrive en Syrie, on pose la question aux combattants au sein de l'État islamique. Est-ce que vous voulez être combattant entre guillemets normal ou combattant « inrimasi », ça veut dire combattant candidat pour une opération kamikaze. Et ensuite, ils suivent une sélection particulière parce que l'État islamique ne peut pas se permettre de voir au dernier moment un kamikaze flanché. C'est une question de crédibilité aussi pour eux.
Ils suivent une formation particulière, dit David Thompson. Ça signifie quoi?
Eh bien, ça veut dire qu'ils vont être isolés du reste du groupe. Ils vont être placés dans un camp d'entraînement spécifique. Comme les autres, ils recevront une formation religieuse, théologique. Ils suivront aussi un entraînement militaire. Mais ils seront mieux encadrés psychologiquement, mieux encadrés ou plus endoctrinés.
Est-ce qu'on sait, Élodie, en quoi consiste précisément cette technique, parce qu'il faut les appeler comme ça, de lavage de cerveau?
Alors ça, dans le détail, malheureusement, on l'ignore. Or, il n'existe pas à notre connaissance de témoignages de djihadistes de Daesh qui seraient passés par ces camps de kamikazes, qui auraient ensuite renoncé à commettre une attaque suicide, puis qui auraient raconté leur expérience à l'image de ce qu'ont fait certains repentis, comme on les appelle.
Alors, ce que l'on sait, en revanche, c'est que ces candidats aux attaques suicides sont très très bien traités par les cadres de l'État islamique.
Oui, et c'est d'ailleurs une des raisons qui motive certains djihadistes à se porter candidat pour commettre une action kamikaze, selon le chercheur Romain Caillet.
Ils sont traités avec beaucoup plus d'égards que les autres combattants, ce qui fait que peut-être psychologiquement ils ont une dette envers ceux qui les ont accueillis dans ces centres. Et puis certains ont la culpabilité, ils ne pensent pas avoir fait assez, donc ils veulent se rattraper en faisant une grosse opération. On peut aussi penser, certains, vouloir passer à la postérité, être celui finalement qui a permis de remporter la bataille, de prendre telle ou telle ville.
Vouloir passer à la postérité en se suicidant, Pourtant, Élodie, le suicide, à ma connaissance, il est interdit par l'islam.
Eh bien, pas dans l'esprit de ceux qui commettent ces actes au nom de Daesh. C'est ce que nous explique Fethi Ben Slama. Il est professeur de psychopathologie à l'université Paris Diderot.
Pour eux, ce n'est pas un suicide. C'est un autosacrifice. Comme le dit le communiqué qui revendique les attentats, ils utilisent le mot « divorcer du monde d'ici-bas ». Divorcer du monde d'ici-bas pour se marier avec l'autre monde. Et dans l'autre monde, ils vivent, ils jouissent, ils ont une jouissance absolue, extrême. C'est ce qui est le processus interne par lequel quelqu'un accepte d'aller jusqu'au bout de cet acte-là.
En conclusion, Élodie, que sait-on ce soir sur ceux qui sont morts en martyrs, vendredi à Paris et ensuite à Saint-Denis?
Alors tous ou presque, on le sait, sont passés par des camps d'entraînement en Syrie. Maintenant, il y a deux hypothèses. Soit c'est un groupe de terroristes dont les membres se connaissaient, qui se sont formés, entraînés ensemble pour mener cette attaque. Soit, et c'est une hypothèse privilégiée, soit ils ont été soigneusement sélectionnés, castés les uns après les autres par Daesh, ce qui montrerait un degré de préparation encore plus sophistiqué.
Merci beaucoup Élodie Guéguin. Dans une seconde, avec Jacques Monin, nous allons voir que derrière Daesh, derrière le terrorisme, il y a aussi des enjeux pétroliers.
Secret d'info, Mathieu Aron.
Notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Il ne s'agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connue. Et la communauté internationale est divisée et incohérente.
Face au terrorisme, une communauté internationale divisée et incohérente, dit François Hollande. Eh bien, nous allons revenir ce soir sur la fabrication du monstre Daesh. A-t-on fermé les yeux sur la montée en puissance de ce groupe terroriste? Quelle est l'implication de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Et quel rôle a joué la diplomatie française? Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir.
Avec Benoît Colomba, vous avez donc enquêté. Et pour bien comprendre, il faut revenir au début de l'histoire. Tout part de la guerre en Irak.
Oui, et de la chute de Saddam Hussein. Parce que lorsqu'ils le renversent, les Américains commettent deux erreurs. D'abord, ils mentent sur les armes de destruction massive et sur les liens supposés entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Mais surtout, ils marginalisent les sunnites pour mettre les chiites au pouvoir. Et Paul Bremer, qui est alors le gouverneur américain à Bagdad, commet une faute qui va jeter des dizaines de milliers de soldats aguerris dans les bras du futur État islamique. Cette faute, un des hommes les mieux informés de France, Alain Juillet, l'ex-patron du renseignement de la DGSE, nous la raconte.
Bremer fait une erreur colossale. C'est que il donne l'ordre de licencier tous les militaires de l'armée irakienne. On envoie, je ne sais plus combien ils étaient, 200 ou 300 000, enfin c'est énorme, hein, gens qui vivaient avec une solde de l'armée. Ils partent avec leurs armes, ils n'ont plus rien, et comme ils sont sunnites et qu'on fait la chasse aux sunnites, il va y avoir l'impossibilité pour eux de retrouver des emplois et autres. Donc ça va créer un ressentiment, une frustration, une haine, mais terrible, envers l'occupant et envers les Occidentaux.
Les Américains produisent donc un terreau de haine et un terreau sur lequel va se développer, Jacques Monin, l'État islamique.
Oui, d'autant plus facilement qu'il n'y a plus de véritable État, que les services publics n'existent plus, que l'économie est moribonde, que la corruption est devenue la norme. C'est donc effectivement sur ces cendres que le groupe État islamique va prendre racine. Et pour Myriam Benrad, qui est docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Irak, bah c'est un peu comme dans la jungle, ce sont les plus forts qui émergent dans ce chaos.
Il y aura un certain nombre de groupes qui vont pulluler, les milices, les djihadistes, la tendance Al-Qaïda. C'est une nébuleuse d'acteurs, mais le fait est que les combattants donc, d'Al-Qaïda Irak, qui deviendra l'État islamique, sont les plus zélés, les plus déterminés. Donc l'État islamique va faire le vide, va coopter un certain nombre de chefs de tribus qui, de fait, parfois même quittent leur tribu pour rejoindre l'organisation. Donc d'une mouvance hétéroclite, eh bien, on a un processus d'unification. Et ils ont fait, à mon avis, fortune, bâti beaucoup de leur succès sur cette unité qu'ils ont su construire justement dans un terrain qui était par ailleurs très divisé, très morcelé.
Et sur ce terrain, une personnalité va émerger, c'est Abu Bakr al-Baghdadi qui règne toujours d'ailleurs aujourd'hui en maître sur Daesh. L'autre groupe djihadiste dominant dans la région, c'est Al-Nosra qui est plus proche d'Al-Qaïda.
Et ces groupes qui montent en puissance, eh bien, on les voit dans un premier temps plutôt d'un bon œil, hein, chez les voisins de la Syrie et notamment en Arabie Saoudite.
Bah oui, parce que l'Arabie Saoudite est sunnite. Elle a donc très mal vécu l'arrivée au pouvoir des chiites en Irak. Et l'avènement des groupes djihadistes, eh bah, c'est un peu à ses yeux une manière de freiner un axe chiite qui commence à prendre un peu trop d'espace à son goût. C'est ce qu'analyse Alain Chouette, un autre ex-patron du renseignement de la DGSE.
L'Arabie Saoudite essaye de s'opposer à la création de ce qu'on appelle un croissant chiite au Moyen-Orient et de maintenir un axe sunnite à travers l'Arabie, la Jordanie et la Turquie. Ces mouvements salafistes, sunnites, sont le seul moyen actuellement pour l'Arabie de s'opposer à la création d'un vaste ensemble chiite qui lui serait évidemment hostile. Il y a aussi l'enjeu pour l'Arabie Saoudite, car elle l'a toujours mené, de s'opposer à toute possibilité de dérive démocratique et nationaliste dans les pays arabes. L'État islamique l'a dit X fois, la démocratie est une abomination.
Voilà donc pour le contexte géopolitique, mais ce qu'il faut préciser, c'est que derrière cette toile de fond, il y a aussi des enjeux économiques absolument considérables.
Oui, alors c'est un aspect qui a été assez peu évoqué jusqu'ici, mais il y a effectivement en arrière-plan le pétrole et le gaz. Parce que jusqu'ici, l'Arabie Saoudite domine la production de pétrole et le Qatar celle du gaz. Or, ces deux pays apprennent que l'Iran, leur plus farouche rival, projette de construire un pipeline qui traverserait l'Irak et la Syrie pour s'assurer un débouché vers la Méditerranée. Alors ça redistribuerait totalement les cartes du marché du pétrole et du gaz. Et pour Alain Juillet, c'est un des éléments qui vont pousser ces deux pays à déstabiliser Bachar al-Assad.
L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème, c'est Bachar. Bachar, il est en train de signer un accord qu'il ne devrait pas signer avec l'Iran. Donc, c'est un personnage extrêmement dangereux. Donc, il faut renverser Bachar.
Et preuve qu'un mouvement se met en route, le prince qui dirige les services de renseignement saoudiens va alors voir Vladimir Poutine, chez lui, en Russie, pour lui demander de ne plus soutenir Bachar al-Assad. Vous comprenez qu'il sera éconduit sans ménagement.
Avec ou sans l'appui des Russes, une opération de déstabilisation de Bachar el-Assad est donc lancée pour des raisons économiques liées à l'acheminement du pétrole. Ça, on l'a compris, mais pas uniquement.
Non, l'Arabie Saoudite et le Qatar financent aussi les rebelles pour faire tomber le régime laïque de la Syrie et pour y instaurer un régime islamique extrêmement sévère, explique encore Alain Juillet.
Les opposants religieux, c'est-à-dire les frères musulmans, dont le Qatar est un des supports reconnus, hein. Bon, les frères musulmans et les Saoudiens ne vont pas hésiter à financer des gens pour réinstaller dans ce pays laïque la vraie religion, la religion vue par les salafistes en définitive. Et c'est ça qui va se passer. Donc on va voir le Qatar financer des mouvements, Jamal al-Nosra en particulier, qui est proche d'Al-Qaïda et qui va se battre au niveau religieux, en disant il faut imposer l'islam. Et puis il y a Daesh. Là encore, au départ, c'est un groupement qui reçoit beaucoup d'argent de la part, on le sait bien, de la part des Saoudiens et de la part des Qataris, mais qui n'a pas encore pris l'ampleur qu'il a pris, mais qui démarre, si vous voulez.
Oui, vous avez donc compris, on a deux mouvements terroristes principaux, Daesh et Al-Nosra, qui sont financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, et ça a d'ailleurs encore été relevé très récemment, c'était en mai 2015, dans un rapport du Congrès américain.
Cela dit, le souci, Jacques Monin, c'est que ce financement, tout le monde en parle, mais que personne jusqu'ici n'a réussi à en apporter la preuve.
Alors plus ou moins, mais c'est très difficile parce que les circuits financiers sont compliqués à établir. Mais Pierre Conessa, qui lui est un ex-haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, et donc un spécialiste de l'islam, croit savoir comment cet argent sort des comptes des hauts dignitaires du Golfe pour arriver jusqu'au groupe djihadiste.
L'Arabie Saoudite est poreuse en termes financiers parce que l'argent public et l'argent privé n'existent pas. La distinction n'existe pas. Quand il manque de l'argent dans la caisse publique, c'est le roi qui verse. Et quand il y en a trop, c'est lui qui ramasse. Et donc, toutes les familles des 10 000 princes, si vous voulez, qui tournent autour, c'est exactement pareil. Et pourquoi c'est pour eux? Parce que, si vous voulez, l'Arabie Saoudite, c'est une espèce de Disney World de l'islam. C'est-à-dire, tout est faux. Vous croyez que les gens sont religieux, etc. Mais, en fait, c'est une espèce de ghetto dans lequel il n'y a aucun cinéma, aucun théâtre. Et quand les Saoudiens sortent à l'étranger, à ce moment-là, ils s'éclatent. Évidemment, ils font tout ce qui est interdit là-bas. Et quand ils reviennent, comme ils se sentent coupables, ils achètent des indulgences. Mais ces indulgences, ils disent pas cet argent doit aller à Al-Nusra ou doit aller à Daesh. Simplement, cet argent va, de fait, vers ces groupes islamistes.
Vous avez compris, des indulgences, c'est en fait de l'argent qu'on donne à des fondations, des ONG saoudiennes, dont les objectifs sont parfois plus que discutables.
L'Arabie Saoudite et le Qatar ont donc aidé des groupes djihadistes, mais au même moment, nous aussi, hein, la France, nous avons aidé des groupes rebelles.
Oui, l'ASL, l'armée syrienne libre, qu'on décrit alors à Paris comme une alternative démocratique possible, crédible, à Bachar al-Assad. Mais en fait, dès le départ, la France prend fait et cause pour les rebelles contre le dictateur syrien. Rappelez-vous, le départ de Bachar, ce n'est qu'une question de semaine, expliquait Laurent Fabius. Et en août 2012, lors d'un déplacement à la frontière turque, le ministre des Affaires étrangères français prononce ces phrases désormais célèbres.
Les personnes que je viens de voir qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre.
Ne mériterait pas d'être sur la terre. Les mots sont terribles et ça justifie que l'on arme les rebelles.
Effectivement, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Alors officiellement, on livre des gilets pare-balles, des outils de cryptage pour les communications, des masques contre les armes chimiques ou des lunettes de vue nocturne. Mais en fait, ce sont bien des canons de 20 mm, des mitrailleuses, des lance-roquettes et des missiles anti-chars que nous avons livrés à ces groupes.
Ces armes officiellement destinées à l'armée syrienne libre. Et pourtant, dans les faits, on ne sait pas trop dans quelles mains elles sont tombées.
On le réalise aujourd'hui, l'ASL ne pesait rien. Ce qu'on appelle les rebelles, c'est une nébuleuse, illisible. Certaines de ces armes sont donc effectivement passées dans les mains d'Al-Nusra, le groupe proche d'Al-Qaïda. Et c'est ce qui fait dire à l'ex-patron du renseignement extérieur de la France, Alain Juillet, qu'on s'est planté sur toute la ligne.
Moi, je pense qu'il y a eu une faillite des services de renseignement dans ce domaine, et ça se comprend. Puisque une des premières réactions qu'on a faites, ça a été de couper les ponts, fermer l'ambassade. Une première réaction, c'est de fermer l'ambassade en Syrie et de ne plus avoir de contact avec les services syriens. Mais dans ce genre de choses, il faut avoir des contacts en permanence.
On a livré des armes aux rebelles.
Bien sûr.
La France a livré des armes à Al-Qaïda, à l'État islamique.
Les Américains ont livré des armes pour empêcher la progression de l'armée de Bachar contre Jamal al-Nusra et Daesh, les Américains ont livré des missiles anti-chars, encore récemment. La question, c'est qu'on entendait à ce moment-là, nous soutenons les Syriens libres. Mais quand on regarde sur le terrain ce que c'est que les Syriens libres, c'est rien du tout.
La France serait donc totalement trompée dans son évaluation de la situation. On a quand même du mal à comprendre comment, au sommet de l'État français, on a été aussi mal informé. Comment on a pu croire que l'ASL pouvait peser face à ces groupes djihadistes, Jacques Renard ?
Il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord, pour Pierre Conessa, qui lui connaît bien les rouages du Quai d'Orsay, c'est tout l'appareil diplomatique qui s'est laissé aveugler. C'est donc un système, un fonctionnement, le fonctionnement même du ministère des Affaires étrangères qui, dit-il, est à revoir.
D'abord, il y a eu un axe diplomatique qui a été, dès le début, extrêmement insistant sur le thème « Notre ennemi, c'est Assad ». À partir de ce moment-là, l'analyse de la crise a été monologique. Ça allait dans le sens de ce qu'avait décidé Fabius. C'est pas en fonction de ce qui était le sens de la réalité du terrain. C'était qu'est-ce que dit notre chef et on va effectivement conforter ce que dit notre chef. C'est-à-dire, c'est Assad, il faut se battre contre Assad, et donc, pour ne pas subventionner les groupes islamistes, c'était on va subventionner l'ASL. Mais c'est vrai que c'est une faillite terrible.
Et cette faillite, elle a peut-être aussi d'autres explications.
Oui, économique par exemple. Là aussi, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ce sont des partenaires économiques de la France. Et face à eux, la Syrie ne pèse pas lourd. Alain Chouet, l'ancien patron du renseignement de la DGSE, qui s'est rendu plusieurs fois en Syrie, se souvient de ce qu'on lui répondait au début de la crise lorsqu'il alertait les autorités françaises sur la réalité de la situation sur le terrain.
La réaction que j'avais en général, en rentrant de Syrie, où je venais un peu raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, les messages qu'on avait essayé de me faire passer, la réaction, une fois, la plus caricaturale, a été « Écoute, tu vas pas nous embêter avec la Syrie, c'est même pas le PNB de la Slovénie, alors on a mieux à faire avec nos amis qataris et saoudiens ».
Bon, sans commentaire. Et en plus, Jacques Monin, ce n'est pas la première fois que l'on se trompe.
Non, rappelez-vous, au moment de l'intervention en Libye, on a commis le même type d'erreur de jugement. Écoutez ce que raconte à ce sujet Patrick Mzadeh, qui est un ancien diplomate à Tripoli, qui a rencontré Benoît Colomba. À l'époque, Paris s'engage contre Kadhafi, on s'en souvient, mais c'est le Qatar qui tire les ficelles en s'appuyant sur sa chaîne de télévision Al Jazeera.
Dès le départ, l'objectif, c'était effectivement de faire sauter Kadhafi. Al Jazeera avait, dès le départ, mis en place une cellule de désinformation, ou en tout cas pour relayer les paroles de Libyens qui étaient en fait dans les studios d'Al Jazeera à Doha, et qui ont évoqué notamment l'histoire des bombardements, qui a été centrale, parce que l'histoire des bombardements, c'est ce qui a été repris par Nicolas Sarkozy le 21 février, 4 jours après le début de l'insurrection, à Bruxelles, pour déclarer la logique de guerre contre Kadhafi. Bon, les bombardements, il n'y en a jamais eu.
Des bombardements de population civile imputés aux
kadhafistes. Donc ça, c'est le premier volet de l'intervention qatarie, c'est l'intervention médiatique. La deuxième intervention, c'est le soutien à une certaine frange de l'insurrection. Un certain courant islamiste, qui ne sont pas tous maintenant des gens qui se reconnaissent dans l'État islamique, mais qui sont des gens qui ont été soutenus par le Qatar. Des livraisons d'armes françaises, d'ailleurs, via le Qatar, ça s'est fait.
Est-ce que la France savait, selon vous, le jeu que jouait le Qatar ?
Bien sûr, on avait des hommes sur le terrain, on savait très bien. Il fallait que ça aille vite et l'objectif militaire premier, c'était la chute de Kadhafi. Donc à ce moment-là, personne ne voulait voir ce qui commençait à se dessiner en Libye.
Voilà pour la Libye donc. Retour maintenant en Syrie. On a un groupe, l'État islamique, qui monte en puissance grâce à l'argent des Qataris et des Saoudiens. Mais cette aide va peu à peu s'interrompre.
Oui, parce que le groupe État islamique devient de plus en plus dangereux. Il va s'approcher des frontières saoudiennes. Il devient si incontrôlable que ses alliés vont finir par couper effectivement les ponts avec lui. Et selon Alain Chouet, l'ex-patron du renseignement de la DGSE, à la mi-2013, les Saoudiens prennent en fait conscience que ces rebelles, les rebelles qu'ils ont aidés, peuvent se retourner contre eux.
À l'été 2013, le cabinet royal saoudien a coupé les vivres complètement aux frères d'Égypte, mais aussi aux mouvements violents qui agissaient aussi bien dans le nord de l'Irak qu'en Syrie. C'est là qu'apparaît d'ailleurs l'État islamique, parce que jusque-là, il n'existe pas l'État islamique. Il y a un État islamique en Irak, mais il n'y a pas d'État islamique en Irak et au Levant. C'est important de le comprendre, parce qu'à partir du moment où l'Arabie et le Qatar coupent les vivres au mouvement, il est obligé de sortir du bois. Et on le voit sortir du bois. Sa première action, ça a été d'aller piller la banque centrale de Mossoul. Ils ont raflé 500 millions de dollars en billets et en lingots d'or avec lesquels ils se sont payés des chefs de tribus du nord de l'Irak. Qui paye commande ? N'étant plus payé par l'Arabie saoudite, l'État islamique échappe à son créateur et reprend la stratégie classique des frères musulmans qui est de condamner la famille Saoud. Le monstre a échappé à ses créateurs.
L'Arabie saoudite prend donc conscience qu'elle a enfanté un monstre. Et cette analyse, Jacques Monin, ce n'est pas simplement celle d'anciens patrons du renseignement français.
Non, à ce moment-là, même les plus hauts dignitaires du pays d'Arabie saoudite reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs. Prenez par exemple le prince et homme d'affaires saoudien Awalid bin Talal. C'est l'un des plus grands investisseurs saoudiens en France. C'est la 20e fortune du monde. Il possède entre autres le George V à Paris et plusieurs hôtels de Disneyland. Eh bien écoutez ce qu'il répond en octobre 2014 à une journaliste de CNN lorsqu'elle l'interroge sur le sujet.
Et qu'en est-il du financement du terrorisme par des grandes fortunes saoudiennes ? Est-ce qu'il est autorisé ? Est-ce qu'on réprime le financement des groupes terroristes, quels qu'ils soient ?
Très honnêtement, je dois vous dire que oui, on avait une faiblesse de ce côté-là. Malheureusement, quelques éléments extrémistes en Arabie saoudite ont financé des éléments extrémistes en Syrie. Mais l'Arabie saoudite a pris des mesures très sévère pour y mettre fin. Et maintenant, tout ça, c'est terminé.
C'est terminé, explique ce prince saoudien. Les choses sont peut-être un peu plus complexes.
Bah oui, parce que comme souvent, il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait, ou plutôt en l'occurrence, ce que l'on ne fait pas. Parce que si les Saoudiens ne font plus rien pour aider le groupe État islamique, ils ne font plus rien non plus pour lutter contre lui. Et c'est ce que remarque l'ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, Pierre Conessa.
L'Arabie saoudite ne combat pas Daesh. En fait, ce sont des pays de l'OTAN qui combattent Daesh. Il y a 12 pays de l'OTAN, y compris l'Australie, plus 5 pays arabes, en fait, surtout la Jordanie, plus quelques pays du Golfe. Mais en fait, quand on regarde la composition des forces aériennes, on s'aperçoit que l'Arabie saoudite met autant d'avions que la Hollande et le Danemark additionnés. Mais par contre, elle met 5 fois plus d'avions pour se battre au Yémen contre les Houthis, c'est-à-dire contre les chiites. Donc l'Arabie saoudite fait la même politique que Daesh, c'est-à-dire la persécution des chiites, mais il n'y a aucune raison de se battre entre eux. La société saoudienne ne comprendrait pas pourquoi on va essayer de faire disparaître une société qui leur ressemble tant. C'est la même qui décapite, qui crucifie, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions.
L'Arabie Saoudite ne fait donc rien pour intervenir véritablement. Et en coulisses, son rôle pourrait être encore plus trouble, hein, Jacques Monin.
Si l'on en croit des sources bien informées, comme on dit, l'Arabie Saoudite continuerait indirectement de financer Daesh en achetant son pétrole au marché noir avec la complicité de la Turquie. C'est ce que soutient en tout cas un fin connaisseur du sujet, l'ancien patron d'Elf, Loïc Leflotte-Prigent, qui a lui-même longtemps travaillé en Irak et en Syrie.
Le pétrole de Daesh ne peut sortir et ne peut être payé que par des gens qui sont prêts à le payer et à étouffer son existence. C'est forcément un mélange de Turcs et de Saoudiens. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que c'est les deux pays qui sont en liaison et qui ont la possibilité de le faire.
Qu'est-ce qu'ils en font, les Saoudiens, de ce pétrole? Ils le blanchissent?
Oh, ils l'utilisent, forcément. Ils ne peuvent pas le blanchir. Je vous rappelle qu'un pétrole a un ADN et par conséquent, on sait d'où il vient si jamais il est sur le marché. C'est-à-dire que si jamais ils exportaient ce pétrole, ce serait su. Donc ce pétrole ne vient jamais sur le marché, donc ils l'utilisent plutôt. Enfin, bon, la laverie s'appelle une raffinerie.
Voilà donc pour les éléments qui jettent le doute sur l'implication du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et pourtant, eh bien la France, elle continue d'entretenir les meilleurs rapports avec ces pays.
Rappelez-vous, François Hollande s'est rendu dans le Golfe, c'était en mai dernier. Il signe avec le Qatar un contrat qui porte sur la vente de 24 Rafales. Et puis il y a un mois à peine, en octobre dernier, Manuel Valls, lui, se rend à son tour à Riyad pour signer des promesses de contrat. Et voilà d'ailleurs ce qu'il lance devant un parterre de dignitaires saoudiens.
Avec l'Arabie Saoudite, nous avançons en confiance. Nous approfondissons une relation économique que nous tournons résolument vers l'avenir. Venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe. C'est le moment, plus que jamais.
À ce stade de votre enquête, Jacques Monin, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en Syrie, de très nombreux pays ont joué avec le feu.
Oui, les États-Unis qui ont déstabilisé l'Irak, les pays du Golfe qui ont financé des mouvements djihadistes, la France qui a joué les rebelles contre le pouvoir syrien sans voir qui elle avait véritablement en face d'elle, et la Turquie donc qui laisse prospérer les trafics sur son territoire. Bref, pour Hocham Daoud, qui est anthropologue au CNRS, les responsabilités sont multiples.
Tout le monde a joué avec Daesh. Tout le monde, il voulait jouer à travers Daesh pour s'imposer. En fait, on a créé Frankenstein. Aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver si est-ce qu'il y a un moyen pour l'arrêter. Oui, il y a des moyens. On peut avoir des forces de coordination pour venir au bout de Daesh s'il y a une volonté politique.
Une réponse politique sans doute, mais en attendant, c'est une réponse militaire qui est apportée.
Oui, alors c'est d'abord un signe adressé à l'opinion française, c'est un signe de fermeté et de détermination, mais sur le terrain, l'efficacité des frappes est limitée et rien ne dit d'ailleurs qu'elles n'auront pas des effets pervers. Écoutez ce que pense à ce sujet l'ancien colonel de marine, Michel Goya, toujours interrogé par Benoît Colombat.
Vous savez, les frappes françaises, c'est 3% du total de toutes les frappes de la coalition qui n'a pas détruit l'État islamique. Les 200 et quelques frappes que nous avons réalisées, en réalité, c'est un petit coup porté à l'État islamique. Donc on peut imaginer d'augmenter les doses, je dirais, mais c'est pas fondamentalement, ça va pas changer grand-chose.
Et est-ce que ça n'alimente pas le terrorisme encore un peu plus?
Oui, cette campagne de frappe aussi est un sergent recruteur remarquable pour, sans doute pour l'État islamique. La campagne aérienne a peut-être, la coalition dans son ensemble, a peut-être tué 400 civils. Donc tout ça alimente globalement le ressentiment sur place, alimente l'idée que ce sont toujours les Arabes sunnites qui prennent des bombes dessus. Et au bilan, on a tué, alors la coalition dit, voilà, on a tué 10 000 combattants, c'est un chiffre qui est invérifiable en réalité, 10 000 combattants, mais elle en a recruté aussi un certain nombre.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un cercle infernal. Mais comment faire autrement? Aucune solution simple ne semble, au moins à court terme, se dégager. Reste l'autre question qu'il est peut-être aussi temps de poser, c'est celle de nos alliances avec Jacques Monin, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite.
Oui, peut-on adopter une posture morale lorsqu'il s'agit de Damas et fermer les yeux sur ce que font Doha et Riyad? Comment peut-on être crédible si l'on fait du commerce avec des pays qui soutiennent un terrorisme que l'on dénonce par ailleurs? Là-dessus, l'ancien spécialiste du renseignement Alain Chouet est catégorique.
On ne pourra pas continuer éternellement dans une politique schizophrène qui consiste à vouloir imposer la démocratie dans certains pays en maintenant une alliance entre nos démocraties et la démocratie américaine qui est la plus grande du monde et les États théocratiques les plus réactionnaires de la région. On a fermé les yeux sur l'idéologie prônée par ces pays parce qu'on la voyait pas, parce qu'on n'en voyait pas les effets. On n'en mesurait pas les effets parce que rien ne se passait chez nous. Ou s'il se passait des choses, on les voyait pas. Ben maintenant, on les voit.
Oui, alors question, la France va-t-elle évoluer de ce côté-là? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, Matignon affiche un embarras prudent et préfère insister sur l'évolution de ses alliés plutôt que sur ses turpitudes.
Merci Jacques Monin pour cette enquête réalisée en collaboration avec Benoît Colombat. Enquête à retrouver sur notre site internet franceinter.fr et sur la page Facebook de Secrets d'Info. Dans un instant, avec Laetitia Saavedra, on va s'intéresser à la toute première expérience de déradicalisation menée dans les prisons françaises.
France Inter. Secret d'info.
Bonsoir Laetitia Saavedra.
Bonsoir Mathieu.
Manuel Valls a donc annoncé hier le lancement d'un centre pour jeunes radicalisés. Alors on s'en souvient, après les attentats de Charlie Hebdo, on avait souligné que les frères Kouachi s'étaient radicalisés en prison et qu'il fallait donc mettre de gros moyens dans les maisons d'arrêt. Une question, Laetitia, un an après, où en est-on?
Alors soyons clairs, hein, Mathieu, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a qu'une seule et unique expérience qui a été menée par le ministère de la Justice dans deux prisons, celle de Fleury-Mérogis et d'Aunis, dans le Val d'Oise. Alors cette prise en charge des détenus est menée par l'association Dialogue Citoyen. Elle a commencé au mois de février, juste après donc les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. 60 prisonniers en ont déjà bénéficié. Et aussi curieux que cela puisse paraître, la première action de l'association, ça a été de soutenir d'abord les surveillants. Wizia Kies est la sociologue, chef du projet.
On a rencontré d'abord le personnel, les surveillants, directeurs, travailleurs sociaux, etc., pour connaître leur perception du phénomène de radicalisation. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une psychose sur l'idée que finalement, il y a des radicaux partout. Et on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc on a proposé une méthode de détection, mais pas seulement. C'est-à-dire, oui, il y a la détection, mais qu'est-ce qu'on fait de l'individu?
Alors, cette méthode de détection, c'est quoi exactement, Laetitia?
Alors, la prise en charge des détenus radicalisés se passe en deux étapes. La première, c'est la sélection des détenus radicaux. Il faut d'ailleurs qu'ils soient tous volontaires. Le choix a été fait de mélanger des détenus faiblement radicalisés et d'autres qui reviennent de Syrie. L'idée, c'est déjà de provoquer un choc. Comment? Eh bien, en leur faisant rencontrer des victimes de terrorisme, comme Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui a été dialogué avec ses détenus jeudi dernier.
J'ai expliqué que j'étais victime du terrorisme parce que j'avais perdu mon père dans un attentat, dans lequel il y avait 170 morts de 18 nationalités, que bien sûr, ça a complètement détruit ma vie dans un premier temps, que je ne savais pas où j'allais, j'étais comme un zombie pendant de nombreuses années, que j'avais de la colère, de la haine dans un premier temps, qu'ensuite cette haine, j'ai réussi à la canaliser pour obtenir justice.
Alors quelle a été leur réaction?
Ils étaient assez impressionnés, et en temps, disant « c'est incompréhensible que tu n'aies pas voulu la vengeance », ça les questionnait. Et quand ensuite ils ont eu deux autres témoignages du même type, c'est quelque chose aussi qui les a intrigués, fascinés.
Qu'est-ce que ça peut donner un entretien comme
alors,
ça?
Dans le but, c'est tout simplement que certains d'entre eux, ça faisait un déclic. Je peux vous dire, j'ai vu dans certains d'entre eux qui n'étaient pas d'accord avec les autres. Avec ceux qui étaient les plus agressifs ou les plus véhéments, on sentait qu'il y avait un décalage déjà.
Comme le souligne Guillaume Denoy de Saint-Marc, l'idée c'est bien d'entraîner un déclic, une rupture.
Oui, une faille si on peut dire dans leur certitude, une brèche dans leur vision du monde. D'où l'organisation de groupes de parole d'une quinzaine de prisonniers pendant 7 semaines. Ça, c'est la deuxième étape. L'objectif, c'est déjà que les détenus acceptent ne serait-ce que d'échanger avec des experts qui ne sont pas de leur avis. Wizia Kies, la chef de projet.
On leur propose des séances de débat où il y a des intervenants très compétents sur différentes thématiques, donc par exemple le fait religieux, la question de la famille, et on invite les détenus à parler librement. On peut tout entendre dès lors qu'il y a respect, c'est-à-dire qu'ils acceptent les avis contraires aussi, les avis de l'intervenant, les avis des autres détenus, etc.
Bon, ça paraît quand même un petit peu minimum comme objectif. Avant d'être de la déradicalisation, on est plutôt dans de la resocialisation, Laetitia Saavedra.
Oui Mathieu, mais c'est une étape incontournable et c'est pour ça que les intervenants sont contents quand ils obtiennent des résultats même les plus infimes. Wizia Kies.
On garde les mêmes depuis le début, par exemple. Donc ça, c'est un signe, déjà. Et puis aussi, leur positionnement dans les débats par rapport à leur comportement. Une personne qui arrive la première fois dans le groupe, qui est très virulente, qui demande pas la parole, qui est limite, vraiment, qui a des propos extrêmement agressifs, qui est très agressive, etc., qui à un moment donné, au fur et à mesure des séances, lave la main pour demander la parole, etc. Moi, pour moi, c'est un signe. C'est déjà d'être à l'écoute, recréer du lien avec l'institution.
On l'a compris, hein, ces stages, c'est une toute première étape. Et donc, cette semaine, ça paraît quand même très court, hein, Laetitia Saavedra.
D'autant plus qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Ces détenus, il y en aurait près de 150 qui sont rentrés de Syrie et qui sont incarcérés. Et donc, pour Sébastien Pietrasanta, député PS chargé d'une mission sur cette question, ces radicalisés représentent une vraie menace.
Ce sont évidemment des bombes à retardement si on n'a pas travaillé sur la déradicalisation de ces individus. Une personne qui rentre en prison radicalisée, si on n'a pas travaillé sur sa déradicalisation, il ressortira à un moment donné de prison aussi radicalisé, voire plus.
Des bombes à retardement, l'expression est très forte. Au-delà de ces stages de cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On a du mal à comprendre, hein, Laetitia.
Alors hier, Manuel Valls a annoncé la création d'une nouvelle structure, un centre de déradicalisation pour les jeunes Français radicalisés. Ce centre, il devrait ouvrir ses portes en début d'année prochaine. Des jeunes y seraient admis sur décision judiciaire et pas sur la base du volontariat. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Le député socialiste Sébastien Pietrasanta nous l'explique.
Ce programme de déradicalisation, c'est évidemment sur une période relativement longue, hein, sur plusieurs mois, au moins 6 mois. C'est prévu pour plus d'une trentaine d'individus au départ et ça va monter évidemment en charge. On agit sur les ressorts psychologiques, une quête d'identité. Et donc il faut agir avec des psychologues, voire des psychiatres, sur un certain nombre d'individus.
Et ce projet est d'autant plus nécessaire qu'on le sait, hein, tous les spécialistes le disent, il faut beaucoup de temps pour déradicaliser quelqu'un.
Serge Effez est psychologue. Il connaît bien le phénomène de la radicalisation. Il a suivi en consultation plusieurs dizaines de jeunes radicalisés. Il confirme, sortir d'une logique extrémiste est difficile, long et complexe. Et en plus, il peut y avoir des rechutes.
Ce discours extrémiste, c'est un discours qui prend en masse. Ça crée un clivage extrêmement profond à l'intérieur de soi et ça chasse complètement les croyances et les convictions antérieures. Mais on peut aussi en sortir, mais dans certains cas, on en sort mais qu'on y revient. Et c'est plutôt ces allers-retours qu'on pourrait appeler des rechutes d'une certaine façon qui sont le plus difficiles dans ces parcours-là. Et donc c'est pas en 3 semaines ou en 4 semaines ou en 6 semaines qu'on sait si quelqu'un est sorti d'un processus de radicalisation. Il est clair que ces jeunes qui sortent de prison, il faut pas les laisser dans la nature comme ça. Il faut vraiment les suivre et entamer avec eux tout un parcours de réinsertion.
Et les spécialistes le rappellent, hein, il ne suffit pas de déradicaliser les détenus en prison. Il faut que toutes les composantes de la société soient concernées par la lutte contre la radicalisation, les familles, l'école, les loisirs et pour la réinsertion.
Merci beaucoup Laetitia Saavedra pour nous avoir raconté cette première expérience et ses limites d'ailleurs de déradicalisation dans les prisons. Voilà, c'est la fin de Secret d'Info. On remercie notre réalisateur Christophe Imbert et Laure Grand-Besançon et à la technique Juliette Delpérou, Henri Bérec et Charles Pélabon.